السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شيخ فرير ان اسلام، شيخ سير ان اسلام، toutes les louanges reviennent à Allah Azza wa Jal qui nous donne la possibilité de vivre cette dernière semaine, on va dire même ces derniers jours du mois de Ramadan 1439-2018. Nous sommes presque à la fin du parcours de ce mois béni, ce mois de Ramadan qui est un cadeau qu'Allah Azza wa Jal a accordé à cette Ummah et qu'il a préservé uniquement pour cette communauté, pour cette Ummah. Car à travers ce mois béni, Allah Azza wa Jal veut nous accorder la possibilité de revenir vers lui. Dans ce mois béni, Allah ouvre en grand toutes les portes de Kaboul, d'acceptation, pour nous permettre de revenir vers lui, même si on s'était éloigné de lui depuis 11 mois. Malgré cela, Allah nous permet encore et encore de rattraper ce temps perdu et de revenir vers lui. Allah a conservé ce mois de Ramadan pour nous afin qu'on puisse lui demander pardon. Même si on a commis énormément de péchés depuis 11 mois, malgré ça, Allah nous accepte. Allah nous permet de renouveler notre engagement. Allah nous permet de lui faire de nouvelles promesses d'obéissance. Même si depuis le Ramadan de l'année dernière, on a malheureusement progressivement abandonné le tahajjud, progressivement diminué, voire abandonné une lecture du Coran, et on a perdu nos acquis du Ramadan de 2017. Malgré ça, dans sa clémence, Allah nous ramène encore vers sa maison, nous donne la possibilité de vivre ce mois afin qu'on arrive à reconstruire une relation avec lui. Allah nous permet également de renouveler notre engagement, nos promesses concernant l'abandon des péchés. Même si on avait fait beaucoup de promesses l'année dernière, après la nuit du destin, après la nuit qu'on avait consacrée à l'adoration, on avait promis à Allah de ne plus faire telle chose, de ne plus commettre tel péché, de ne plus recommencer telle chose. Et peut-être qu'on a tenu bon, alhamdoulilah. Peut-être qu'au bout de 2 mois, 3 mois, 4 mois, on a ressenti les premiers signes de faiblesse. Peut-être qu'après le Eid, on est retombé directement de nos péchés. Et Allah seul connaît l'intérieur de chacun de ses serviteurs. Et Allah connaît nos faiblesses. Mais malgré nos faiblesses, malgré nos erreurs, malgré nos imperfections, tout ce qui fait de nous des êtres humains, des Bani Adam, des êtres humains, des Insan, malgré tout cela, Allah nous redonne année après année ce mois de Ramadan pour nous permettre de, encore une fois on le répète, de reconstruire notre relation avec lui. Allah nous a conservé, nous a préservé ce Ramadan alors qu'il avait été prescrit aux autres communautés avant nous, mais que les autres l'ont perdu. Allah nous donne la possibilité de cumuler, de bénéficier d'un maximum de baraka, de bénédiction durant ce mois béni. Même si durant toute l'année, nos mauvaises actions nous privent de la baraka. Allah nous permet d'obtenir sa rahma, même si durant toute l'année, durant les 11 autres mois, en dehors du Ramadan, nos péchés, nos manquements envers nos proches, envers les membres de notre famille, nous ferment parfois les portes de sa clémence. Mais de ce mois béni, Allah les ouvre en grand et à nous d'en profiter. Et enfin, parmi les points qu'on a énumérés, il y en a d'autres encore. Dans ce mois béni, Allah nous permet de voir nos doigts, nos invocations acceptées. Et très certainement, il n'y a pas une période de l'année où on fait autant de doigts que durant le mois béni. Tout ça, ikhwani akhawati fillah, ce sont des faveurs de la part d'Allah. C'est ce retour spirituel, la reconstruction de notre spiritualité, de notre relation avec lui. Ça, on arrive bi'idhnillah à le faire chaque année durant le mois béni. Et ainsi, depuis le début de ce Ramadan 2018, ça fait 24-25 jours, nous essayons de faire justement le maximum d'efforts pour nous rapprocher d'Allah, pour reconstruire cette relation avec lui par le biais de qualités intérieures. C'est ce qu'on appelle le amal al-qulub, la soumission, la dévotion, la sincérité, la patience, la recherche de son agrément, de son contentement. Par des actes d'adoration externes, la prière, la salat par exemple. Et également par le retour vers la source. Il n'y a pas un mois de l'année où on lit plus le Coran que durant le mois de Ramadan. Lire le Coran, c'est se reconnecter avec la parole d'Allah, et ça, c'est vital pour le iman, pour la survie spirituelle du croyant, surtout à une époque de fitna, une époque de péché. Et nous nous rapprochons d'Allah également par la proximité que nous essayons de construire avec les gens, en invitant les gens à rompre le jeûne, en donnant l'aumône, en donnant la sadaqa, la fitra, en permettant à des personnes de rompre le jeûne chez nous à la masjid. C'est-à-dire tous ces a'mal, les actions en rapport avec les autres, ça aussi, ça nous rapproche d'Allah. Et la seule chose que nous pouvons demander à cet instant, c'est demander à Allah de nous accepter et d'accepter les bonnes actions qu'il nous a été au fil de faire, malgré les manquements, malgré les erreurs, et donc justement qu'Allah pardonne ces manquements. Maintenant, comment aller de l'avant? Parce que nous ne voulons pas de ce Ramadan où on s'est donné à fond, et effectivement les portes de la clémence étaient ouvertes, du tawba, d'acceptation des doigts, et qu'on s'est donné à fond, mais qu'après le mois béni, on retourne vers une situation initiale, qui est une situation malheureusement de croyants qui restent plongés dans les réalités de ce dunya, pas dans les réalités, pardon, dans les rourours de ce dunya, dans l'illusion de ce dunya, et qui finit par penser que le dunya constitue l'essence de sa création. Ça, c'est l'erreur que nous commettons régulièrement. Ça, c'est ce qui fait que 10 jours après le mois béni de Ramadan, on se rend compte qu'on a déjà malheureusement perdu tous nos acquis. Les bonnes actions, muddakhar inshallah, Allah les garde. Mais je veux dire que les bonnes habitudes qu'on a essayé de construire jour après jour, la salat en jama'a que j'essayais de faire et que je faisais en sorte de ne pas rater une prière, la salat de fajr le dimanche qui est normalement le jour le plus difficile pour venir à la masjid, mais ça aussi je le faisais avec assiduité. Mais il ne faut pas qu'on construise un cycle de progression spirituelle qui durera 30 jours sur 360, et du coup les 330 autres jours de l'année, nous sombrons de le rourour, de le rafla, de l'insouciance. Ce n'est pas ça la proximité que nous devons créer avec Allah Azza wa Jal. Ce n'est pas là un taqsim qui est correct, qui est respectueux envers Allah, que de consacrer à notre Seigneur un mois de l'année et de garder 11 mois pour nos plaisirs, nos shahawat et nos penchants. Quand Allah nous annonce qu'il nous a créé wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, c'est le but, c'est l'essence de notre création. Le but de notre création, c'est vraiment que ce front soit posé régulièrement sur le sol pour Allah, c'est que ce cœur soit lié avec Allah Azza wa Jal, c'est de créer cette relation jour après jour. Ikhwani fillah, on va essayer à travers cette intervention de mettre en avant peut-être quelques manquements et essayer de trouver une solution pour puiser une force de iman qui nous permettra de rester dans le droit chemin de l'istiqama après ce mois béni. Et cette source, c'est l'au-delà, la connaissance de l'au-delà en relation avec l'étude des versets du Coran. Alors, pour revenir un petit peu dans notre introduction, ce que nous devons ressentir, nous sommes le 25e Ramadan, c'est bien ça. Nous sommes le 25e, hier soir c'était une nuit impaire. Ce que nous devons ressentir à l'instant T, après avoir jeûné et fait des efforts durant 25 jours, il y a 4 sensations, 4 sentiments qui doivent bercer notre cœur. Premièrement, l'espoir, al-raja, l'espoir qu'Allah accepte, comme on a dit, malgré nos manquements. Deuxièmement, nous devons être constamment habités par des regrets. Qu'est-ce qu'on appelle des regrets? C'est le contraire du sentiment du devoir accompli. Ne jamais se dire que hier soir c'était une nuit impaire, j'ai passé la nuit à la mosquée, j'ai fait telle action, ben il n'y a pas meilleur que moi. Ou alors je me suis acquitté vraiment du droit du Ramadan, j'ai fait ce qu'il fallait faire, c'est sûr que j'étais un des meilleurs et qu'Allah soit satisfait de moi. Ça c'est une waswasa de shaitan, ça, de te faire croire que tu es au top et que tu as bien avancé, que tu as fait des choses remarquables. Mais du coup, on ne pensera jamais à se remettre en question et on ne verra même pas, on ne pensera même pas qu'il existe une marge de progression. Et la pire des choses, c'est quand le croyant avance dans ce genre de marasme spirituel où il tourne en rond et il finit par se persuader qu'il est au top et qu'il n'y a pas de marge de progression. Ikhwani fillah, akhawati fillah, le premier verset du Coran qu'on a essayé de travailler bi'idhnillah dans la masjid à Saint-Denis, c'était le premier soir du Ramadan, c'était le début de la sourate Al-Baqara, c'était Hudan lil Muttaqin. Astaghfirullah, j'allais dire tout simplement, on n'a pas le droit de dire tout simplement, mais c'était juste, même juste c'est pas bien, c'était Hudan lil Muttaqin, une guidée pour les pieux. Et en creusant le tafsir d'Ibn Kathir et d'autres mufassirines concernant Huda lil-Muttaqin, ben, on est resté bloqué et on est resté habité et on va dire possédé par la lumière de ce verset Huda lil-Muttaqin, et on finit par être persuadé que la solution pour notre guidée de ce dunya et notre réussite de l'au-delà, ça se trouve obligatoirement et c'est impératif de transiter par la parole d'Allah. Bien inconscient et bien ignorant, jahil, celui qui pense que par uniquement ses actes d'adoration, son chakra, comme il dit, il vient à masjid, il sort de masjid, son rituel, il va devenir un pieux serviteur. Il sera croyant. Mais d'autres personnes avant nous pensaient être des croyants. Mais le prophète alayhi salatu wa sallam leur a rappelé, ils étaient encore à la première étape de la foi. Et nous, Allah seul sait si nous avons déjà franchi la première étape. Ainsi, le croyant qui se déconnecte de la parole d'Allah, c'est quelqu'un qui ne pourra pas trouver les qualités intérieures. C'est-à-dire que le socle de toute notre vie spirituelle, qu'on peut résumer en quatre points, ikhlas, la sincérité, istiqama, la fermeté de les bonnes œuvres, le muraqabatullah, la pensée permanente d'Allah Azza wa Jal, le ittiba' as-sunnah, le fait de suivre scrupuleusement les enseignements du Coran et de la Sunna, ces qualités-là et les autres a'mal al-quloub qu'on ne peut pas travailler à travers le rituel. Je reprends. Les a'mal al-quloub, ce sont des actions qui sont dans le cœur. Et c'est la base de nos bonnes œuvres externes. Et ces a'mal al-quloub, on ne peut pas les travailler uniquement par le rituel, tout comme on ne peut pas les travailler, l'exemple est bête, tout comme on ne peut pas les travailler en allant dans une salle de sport. C'est pas en poussant des haltères que les a'mal al-quloub vont s'installer. Tout comme ce n'est pas en répétant les rakat et les lectures du Coran que les actions intérieures vont trouver leur place dans le cœur. Il y a une autre catégorie d'action, il y a une autre source qui est indispensable pour développer des qualités intérieures, et ce sont uniquement ces qualités de la foi qui nous permettront de trouver le chemin de la fermeté, du istiqama. Ainsi, cette réaction de foi qui est la crainte de ne pas avoir répondu présent correctement et de toujours se remettre en question et d'essayer de reprogrammer sa nuit, reprogrammer son lendemain, ça fait partie des qualités de la foi. Et bien au contraire, penser qu'on est au top, ça s'appelle la rafla, ça s'appelle de l'insouciance. Et quatrième sensation que nous devons avoir intérieurement, c'est la motivation. Parce que il reste encore 4 ou 5 jours de jeûne, il reste encore 2 nuits impaires. Et Allah est capable de nous accorder en une nuit, en 2 nuits, ce que nous avons peut-être pas pu travailler durant 25 jours, 26 jours, 27 jours. Et Allah est Rahman Rahim. Et Allah est Karim. Et Allah est Ghani. Et son trésor est infini. Sa miséricorde est immense. Et quand Allah décide de ramener un serviteur vers lui, Allah peut le faire en quelques instants. Et nous souhaitons être ce serviteur qui sera ramené vers lui. Mais pour qu'on ressente avec vraiment des acquis qui vont rester durant la période d'après Ramadan que nous apprêtons à vivre, c'est la période la plus difficile, il y a 2 objectifs, 2 actions essentielles que nous devons essayer d'incruster dans nos a'mal, la taqwa et le istikhama. La taqwa, il n'y a pas besoin de le développer, c'est l'objectif du jeûne. Comme un kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Et vous avez certainement entendu pas mal de discours concernant la piété en rapport avec le mois de Ramadan. Et au-delà du jeûne, c'est l'objectif de toutes les bonnes actions. Ya ayyuhannasu ibudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. C'est comme pour le jeûne, la'allakum tattaqun. Ô homme, adorez votre Seigneur qui vous a créé. Vous et ceux qui vous ont précédés, ainsi atteindriez-vous la piété. L'objectif de chaque bonne action, à chaque fois que je pose mon front sur le sol, à chaque fois que je dis Subhanallah, à chaque fois que j'essaie d'être proche de mes parents ou d'une personne, le but c'est d'être plus proche d'Allah Azza wa Jal, de développer la piété. Bien inconscient, le croyant qui n'arrive pas à voir l'objectif des bonnes actions et qui va les accomplir de façon traditionnelle sans penser une seconde que j'ai un objectif à atteindre. Et pareil pour le jeûne, celui qui se dit je jeûne parce que tout le monde jeûne, je jeûne parce que c'est le mois de Ramadan, je jeûne parce que j'ai appris ça avec mes parents quand j'étais petit ou parce que j'ai appris avec mon Issa Balamadressa, la personne va accomplir la bonne action, mais l'objectif risque de ne pas être atteint. Ainsi, on a besoin de cette basira, de cette clairvoyance, de cet éveil spirituel qui nous permet de faire un lien entre les actions que nous accomplissons au quotidien et l'objectif qu'Allah nous a demandé d'atteindre par le biais de ces bonnes actions. Deux points essentiels, donc, c'est la taqwa et la istiqama. Et c'est la istiqama qui nous intéresse. C'est ça qu'on va essayer de développer à travers les versets. La istiqama, c'est la fermeté. C'est la constance dans les bonnes œuvres. C'est également la constance dans l'éloignement de tout ce qui est haram. Avec certitude, avec ilm et conviction, que ce qui est haram déplaît à Allah. Et que ce Seigneur que tu ne veux pas désobéir durant le mois béni, c'est le même Rabb que tu ne peux pas te permettre de désobéir durant les autres mois de l'année. Autrement, ce serait une relation totalement dispersée et incohérente. On a besoin d'une relation qui est correcte entre nous et Allah. Une relation sincère, une relation profonde, une relation qui atteint son objectif, comme c'était le cas des sahabas. Et cela transite par cette prise de conscience. Et cette nécessité de l'istikhama dans les bonnes actions, mais également dans l'éloignement des péchés. Quelle incohérence! Une personne qui, par exemple, fait le itikaf, un exemple parmi tant d'autres, et qui est donc au premier rang, chaque salat, pendant 10 jours, ça fait 50 salats au premier rang avec ce qu'on appelle takbir oula, et que la personne du jour au lendemain, le jour de Eid, se décide que voilà, le ramadan est terminé, j'ai accompli mon itikaf, maintenant si je peux venir à masjid, je viens, si je peux pas, je prie chez moi, et si le timing ne le permet pas, je remplace ce soir. C'est une incohérence, c'est-à-dire que l'action était là, mais le cœur n'y était pas. Vous suivez ? L'action était là, mais le cœur n'encadrait pas l'action. On n'avait pas cet éveil spirituel suffisant pour te permettre d'orienter l'action vers Allah. Et l'orientation de l'action vers Allah, ça c'est la base du ikhlas. Le ikhlas, ce n'est pas uniquement faire pour Allah et pas pour les gens. Quand on dit ikhlas, ce n'est pas uniquement écarter l'ostentation. Quand on dit ikhlas, c'est orienter l'action vers Allah et réaliser qu'Allah nous observe et qu'Allah attend de nous un rendement spirituel. Et quand on dit ikhlas, c'est obligatoirement associé au istiqama, parce qu'on ne peut pas rechercher le contentement d'Allah et à un moment donné se dire « maintenant j'arrête de rechercher le contentement d'Allah ». Ça c'est incohérent. Ikhlas et istiqama sont liés. Si je le fais pour Allah, je ne peux pas me dire intérieurement que je le fais pour Allah, je recherche son agrément pendant 30 jours. Et après, je n'ai plus besoin de rechercher son contentement. Ça, ce n'est pas possible. Ça, ce n'est pas ce n'est pas la relation à ma khalaqtul jinna wal insa illa li'abudun. En fait, il y a plein de manquements de notre approche, même du dîn. Alors qu'on a orné, on a décoré notre religion avec des actions qui sont impressionnantes, mais nous manquons énormément de ce iman que le prophète alayhi salatu wassalam avait travaillé avec les sahaba pendant les 13 premières années à Makkatul Mukarrama. À mon humble avis, nous avons grandement besoin, même si ça fait partie des conclusions, mais on peut tout balancer. Spirituellement, on va essayer de profiter au maximum de ces enseignements. Mais il est là, on est à une époque où on a grandement besoin d'étudier les sourates makkiyah, les sourates du Coran qui ont été révélées à Mecca. Parce que ces sourates ont une particularité, une pratique qui est demandée aux croyants, et cette pratique du dîn, cette relation avec Allah, elle est surtout basée avant tout sur iman billahi et iman bil yawm al akhir. Si vous lisez la traduction de la plupart des sourates Makkiyah qui ont été révélés à Mecca, ça commence toujours par le rappel que c'est Allah le créateur, que c'est lui qui a fait descendre le livre, et il y a un rappel de l'au-delà, parce que ça c'est la base, ça c'était la période, on peut dire, tremplin spirituel, la période où on part de zéro pour essayer d'avancer vers Allah. Et nous, très clairement, on est au-dessous de zéro. Même si j'ai 35 ans de pratique de la religion, 40 ans, il me manque énormément de bases. Je n'ai pas eu encore l'occasion de sauter sur ce tremplin spirituel pour ensuite, révélation de la salat lors du voyage nocturne, mi'raj, révélation du ramadan l'an 2 de l'Égypte, c'est-à-dire à Madina, c'est-à-dire 15 ans, je ne dis pas de bêtises, 15 ans exactement après Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, 15 ans après, le jeûne a été révélé. 15 ans après, il y a eu la zakat. Et combien de temps après le hajj? Calculé, c'est en l'an 9. Donc calculé 15 plus encore 7, vous voyez, à peu près 22 ans. Enfin, après, voyez vos calculs vous-même. C'est-à-dire que ces piliers de l'islam, nous nous sommes focalisés sur les piliers. Quand papier hajj est affiché, tout de suite, d'ailleurs, on donne le nom, on économise, c'est une bonne chose. Le frère Bayam regarde gros yeux et dit, laisse tout le monde faire hajj, a besoin d'arak. c'est une bonne chose, mais ce hajj, est-ce que, excusez-moi l'expression est bête, hein, est-ce que tu vas tourner autour de la Kaaba ou tu vas tourner en rond? C'est grave de le dire, ça fait mal au cœur de le dire, je ne dis pas ça avec plaisir, hein. Est-ce que tu tournes autour de la Kaaba ou tu tournes en rond? Et c'est souvent comme ça dans notre relation avec Allah. Le rituel y est, tu y es, tu réponds présent. Tu es là, tu mets la sunnah en pratique, tu fais des bonnes actions, mais c'est sans fond. Il manque quelque chose. Et c'est très simple, mes chers frères et sœurs en islam. Il manque iman billah. Et c'est sur iman billah que les arkan, les piliers de l'islam vont se greffer. C'est avec le iman billah que tu vas donner un sens à tes prières, à ton aumône, à ton jeûne, à ton tawaf, à ton wukuf à Arafat. Et que tu vas ressentir cette puissance d'Allah Azza wa Jalla, le azamatullah. Ainsi donc, ikhwani fillah, on a grandement besoin du istiqama et c'est certainement la qualité la plus difficile à développer. Ce n'est pas pour rien si Allah Rabbul Izza nous rappelle inna alladhina qalu ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا تخافوا ولا تحزنوا pas de crainte ni de tristesse وابشروا بالجنة l'annonce du جنة au moment de mourir. C'est pour la personne qui est restée ferme de le droit chemin. Mais une action qui, bien sûr, est accompagnée de iman, c'est-à-dire une action qui est vivante, des actions qui nous permettent de goûter à la douceur de la foi, la halawatul iman. Et quand on a combiné iman avec les bonnes actions, c'est là qu'on grimpe, c'est là qu'on monte de grade jusqu'à atteindre l'ihsan, adorer Allah comme si tu étais devant le arche d'Allah. Que tu fais ta génuflexion, ton rukou, hein, et que tu trouves du plaisir à rester 10 minutes dans le rukou, hein. Et que même si tes disques L5, S1, ils appellent à l'aide, mais tu te dis que, au-delà de cette petite douleur, au-delà de ces étirements, au-delà de ces mollets qui font un petit peu mal, j'éprouve un tel plaisir à être en rukou, en génuflexion devant mon Seigneur, et à lui dire toute louange, subhana, pureté à toi, Rabbi al-Azim, le Seigneur qui est le plus grand, qui est magnifique, et dans mes sijdas, lorsque je me jette le front sur le sol, je dis toute louange à toi, subhana, Rabbi al-A'la, celui qui est le plus élevé. Ça, c'est ce qu'on appelle halawatul iman, ça c'est atteindre l'ihsan, que tu montres à Allah ta ferveur. Et chatani, différence entre cette façon de pratiquer, de prier qui était celle de notre Nabi Karim alayhi salatu wassalam, des sahaba, et notre façon à nous de prier. Pensez juste que le prophète alayhi salatu wassalam, dans la position assise entre les deux sujouds, où il disait Allah maghfirli, warhamni, wa'afini, warzuqni, et d'autres adhkar, il passait le même temps qu'il passait dans le sijda. Et dans certaines sources, on parle d'un sijda qui était aussi long que ses qiyam. C'est un autre niveau de bonnes actions. C'est cette connexion avec Allah qui nous manque. Et donc le istiqama, on va aller un petit peu plus vite, on démarre. Le istiqama, elle est basée, la fermeté de la foi, elle est articulée, on pourrait dire, autour de quelques actions. Crainte d'Allah sur la terre, dans ce dunya, ne mets pas un pied après l'autre sans penser au regard d'Allah sur toi. Deuxièmement, la crainte d'être éloigné par Allah, la peur qu'un jour Allah n'est plus satisfait de nous. Donc le croyant restera toujours en état de vigilance spirituelle, contrairement à celui qui pense qu'avec sa grande barbe et son kafni et son titre de Hafiz le Coran et sa belle lecture, lui il est au top et il ira au top. Qui t'a dit que tu fais partie des Ahlul Jannah? Quand Umar ibn al-Khattab n'arrêtait pas de demander est-ce que mon nom fait partie de la liste des munafiqin, des hypocrites, subhanallah. Ça, c'était le fikar des sahaba. Cette faculté à toujours se remettre en question, à se demander est-ce qu'à l'instant T, Allah est satisfait de moi ou non. Si je n'y pense pas de façon, et je pèse mes mots, obsessionnelle, c'est que j'ai des manquements dans ma foi. Ça doit être ma préoccupation. Ça doit être la chose qui omnibule ma pensée. Est-ce qu'à l'instant T, Allah est content de moi? Et si l'ange de la mort venait à reprendre mon âme, est-ce que je retourne vers un Seigneur qui me dit « Ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya » ou alors Allah n'est pas radiyatan mardiyya avec moi. Donc l'istiqama nécessite la crainte qu'un jour Allah m'éloigne. Et c'est pour cela qu'Allah nous demande de lire 17 reprises au minimum, ihdina as-sirat al-mustaqim, guide-nous vers le droit chemin pour ne jamais être éloigné de lui. Le istiqama passe par la reconnaissance pour les bienfaits. Ça, c'est un point à développer, mais on ne le fera pas. Quand tu analyses les ni'amas qu'Allah t'a accordés, tu dois développer ce qu'on appelle al-haya, la honte de désobéir à Allah. Allah t'a accordé une épouse, Allah t'a accordé une maison, t'a accordé la santé, on aurait dû dire la santé avant, la foi avant, et tous ces bienfaits. Comment est-ce que tu peux délibérément, volontairement, désobéir à ton Seigneur? C'est la plus grande ingratitude. Donc, prendre conscience des bienfaits, c'est également, ça fait partie des moyens pour rester ferme dans le droit chemin. L'attente, quatrièmement, l'attente et la crainte de la mort. On récapitule après. L'attente et la crainte de la mort, ce croyant qui, sans extrapoler, quand il sort de chez lui pour venir à la masjid, il réfléchit, est-ce que dans ce trajet, si l'ange de la mort vient, qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que je suis clean ou pas clean, spirituellement? Il y a cette pensée permanente de la mort, ça c'est une preuve de iman, et c'est pas une crainte uniquement de la mort, c'est un désir de retourner auprès d'Allah, c'est-à-dire être toujours musta'id, être toujours prêt pour rencontrer Allah. Et dernier point, la crainte de mon retour vers Allah de l'au-delà. Qu'est-ce qu'Allah fera de moi? Parce que lorsque je lis des versets, on avait prévu une quinzaine de versets, mais sans se faire d'illusions, on en verra trois peut-être, et un verset c'est suffisant pour nous remplir de lumière. Lorsque je vais lire « Faminhum shaqiyyun wa sa'id » qu'il y a des gens malheureux et des gens qui sont heureux le jour de Qiyama, j'ai besoin de savoir, moi je serai où? Parce qu'il n'y a pas une troisième catégorie. Il y a ceux qui sont heureux, ceux qui seront malheureux le jour de Qiyama. Comme il n'y a pas une autre issue, je serai forcément parmi une de ces deux catégories. J'ai besoin de savoir à l'instant T si, au moment où je retourne vers Allah, quand je serai ressuscité, on ne parle plus de la mort, à partir du mahshab, est-ce qu'Allah me ressuscite ma'an nabiyyin wa siddiqin wa shuhada wa salihin, ou Allah me ressuscite avec les personnes qui ont encouru sa colère? لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. Comme la personne qui a consommé de l'usure, de l'intérêt, il est ressuscité comme une personne possédée. Le jour de Qiyama, l'humiliation totale. Donc j'ai besoin de développer ce fikar. Comment sera mon retour vers Allah dans l'au-delà? Comme on a dit, on récapitule parce que c'est des points un peu dispersés mais qui sont liés pour qu'on travaille la fermeté. Parce que beaucoup de gens disent, là, dans Ramadan, on arrive, on est productif parce qu'il y a l'ambiance, on est chaud, on est là. Mais après Ramadan, c'est comme si que tout disparaît, c'est comme si qu'on a éteint la lumière, on a débranché le courant et on se retrouve seul comme ça, erré, et on ne trouve plus la motivation. Tu n'as pas à trouver la motivation pour adorer Allah. Cette motivation, tu n'as pas à le rechercher auprès des gens. C'est pas parce qu'il y a 10 000 personnes que tu auras la motivation. C'est pas parce qu'il y a 3 personnes que tu es découragé. C'est pas ça. Parce que je veux dire qu'il y a un, il y a peut-être des milliards de personnes, mais le mot d'ordre, c'est quoi? Hein, dis ça. Quel mot d'ordre est répété en boucle? Nafsi, nafsi. Nafsi, nafsi, alors qu'il y a des milliards de personnes qui sont là. Mais ces milliards de personnes disent tous nafsi, nafsi. Ainsi, le fait de trouver beaucoup de gens, c'est pas ça qui doit me pousser vers la masjid. Et c'est le fait de trouver peu de gens, ça ne doit pas non plus m'éloigner de la masjid. Donc on récapitule ce istiqama qui est difficile à travailler. Elle est articulée autour de la crainte d'Allah sur la terre et son regard sur nous. 2, la crainte d'être éloigné un jour d'Allah, qu'Allah ne soit plus satisfait de moi. 3, la reconnaissance pour les bienfaits. 4, l'attente et la crainte et l'espoir de la mort. Comment je vais mourir? Et 5e point, la crainte du retour vers Allah. Comment est-ce que je serai ressuscité? Et ces actions-là aussi, ça fait partie des amal al-qulub et ça gravite autour de iman billah et iman bil yawm al-akhir. Maintenant, la question justement, quand les gens me disent que on n'arrive pas à trouver cette fermeté après le mois béni, il y a 3 actions essentielles à développer pour essayer d'avancer correctement selon le sirat al-mustaqim. Premièrement, développer iman billah. C'est ce qu'on a dit depuis le début. La foi en Allah, et qu'on dit connaître Allah, c'est connaître ses noms, ses attributs. Tant qu'on ne fait pas un effort pour connaître les noms, les attributs d'Allah, il restera une distance entre nous et notre Seigneur. C'est-à-dire, on ne connaîtra pas réellement Allah. Et aïb, quel manquement pour un croyant que de se prosterner 17 fois par jour, non, même pas 17, multiplié par 2, c'est 2 sujdats par 4, je suis pas très fort en maths, 17 par 2, ça fait 34, d'accord, 10, 34 prosternations par jour, et je ne sais toujours pas, ça veut dire quoi, Al-A'la. 17 génuflexions par jour, et je ne sais toujours pas ça veut dire quoi, al-azim. Et quelle est la différence entre Subhan Rabbi al-Azim, Subhan Rabbi al-A'la? C'est-à-dire qu'il y a un travail de talab al-ilm. Le problème, c'est l'ignorance. C'est que quand j'ai terminé mon cycle à la madrasa, quand j'avais 16 ans, à peu près 15-16 ans, j'ai arrêté d'apprendre le dîn. Et la grosse erreur, ce serait d'arrêter complètement d'apprendre le dîn, alors que nous avons des ulama qui sont présents et des ouvrages qui nous permettent de nous ressourcer spirituellement. Deuxième action à développer, c'est l'iman bil yawm al-akhir, connaître l'au-delà. Connaître les étapes de l'au-delà. Et troisième action, c'est le ilm justement. Et pour englober tout ça, c'est tadabbur ayatillahi wa dirasati kalami nabi sallallahu alayhi wa sallam. Pour développer iman billah, connaître les noms d'Allah, les attributs d'Allah et développer l'yaqin, la conviction sur l'au-delà, il faut transiter par la révélation, par les versets du Coran. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en 30 minutes peut-être, dans notre temps d'intervention, à travers l'étude de quelques versets, on veut juste ouvrir quelques portes. On veut juste détaquer quelques portes et entre-ouvrir les portes. Laisser la porte entre-ouverte pour que nous voyons la lumière qu'il y a derrière cette porte. Et réaliser que pourquoi est-ce que je n'ai jamais pensé à pousser cette porte pour voir tout le nour qu'il y a derrière. Le nour, ces portes, ces métaphores, ce sont les ayats du Coran, plus de 6000 versets et autant de nour, autant de lumière. Le prophète alayhi salatu wa salam nous avait promis, il nous l'a dit, « Taraktu fikum » Ma in tamassaktum bihi lan tadillu abada kitabullah wa sunnati oh ma umma. Et là il s'adresse pas uniquement à Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, il s'adresse à nous tous jusqu'au Qiyama. Je vous ai légué, je vous ai laissé deux choses, et ces deux choses là l'avantage c'est qu'ils sont sous la protection d'Allah. Je vous ai laissé deux choses, si vous vous y accrochez vous ne serez jamais égaré. Et quand on dit jamais égaré, c'est le kufr, le shirk, la bid'a, l'innovation, le fait de quitter le droit chemin qu'Allah nous protège, mais c'est également les fausses qualités de piété. Quand quelqu'un croit qu'il est pieux, quand quelqu'un croit qu'il est religieux, mais en fait il n'a rien de le fond de son iman. Tout ça, ça fait partie des sources d'égarement. Alors que celui qui s'accroche au Coran et le commentaire du Coran, ce sont les paroles du prophète alayhi salatu wa salam, cette personne ne sera jamais égarée, même dans les pires époques, c'est-à-dire à la venue de l'antéchrist, le Dajjal, c'est pas la sourate Kahf, c'est pas la lecture du Coran, par l'étude et la compréhension de Kalamullah, que l'être humain trouve toujours la guidée, et que même si une créature vient et ressuscite ton papa et ta maman qui sont morts et enterrés, et que ton père et ta mère sortent de terre, c'est ce que Dajjal fera, et dira, oh mon fils, atteste que c'est lui ton Seigneur, cette personne restera ferme, et que ce jeune homme qui viendra de Médine, de Al-Madine, Al-Munawwara, il dira, oh Dajjal, notre prophète nous a donné des descriptions de ta personne et de ton action. Et Dajjal le tranchera en deux et lui redonnera la vie. Et lorsqu'il retrouvera la vie, il dira, oh Dajjal, ce miracle que tu as accompli me donne encore plus de yaqin et de conviction que c'était toi Dajjal. Parce que le Hadith du Prophète nous a décrit cette scène avec précision. Quand il y a le ilm et le yaqin, vous pouvez voir des choses extraordinaires. Vous pouvez mourir et être ressuscité. Ça ne diminue pas votre iman. Au contraire, le iman reste ferme et se renforce. Que dire des fitnas du dunya? Que dire de fitnatul nisa? Que dire de fitnatul mal? De tous les fitnas, toutes les sources de troubles qui nous empêchent d'avancer, toutes les sources de péché. Nous, on se dit qu'on vit dans un monde où il y a trop de péché, il y a trop de gounah, il y a trop de marziya, il y a trop de fitnas, ainsi de suite. Mais ces fitnas-là, ikhwan et fillah, ce n'est rien à côté de l'antéchrist. Et face à l'antéchrist, c'est la parole d'Allah, c'est le ilm, c'est la conviction qui permet à l'homme d'émerger et de ne pas sombrer dans le koufre et le shirk. Donc, en 2018, en 1439, dans une époque où il n'y a jamais autant de fitna et de sources de péché, celui qui ne se raccroche pas au verset du Coran, celui qui n'a pas une étude, je dis bien, régulière et journalière du contenu des versets, je ne parle pas du hafid al-Quran. Hafid al-Quran, on en a la appel bi'idhnillahi wa bifadlihi wa tawfiqihi wa karamih ni'matun min Allah, faveur de la part d'Allah. On a des jeunes de Saint-Denis qui m'écrivent sur les réseaux sociaux, ils me disent que Moïssa cette année nous les Saint-Louis, il a dit Taravi Saint-Louis, il a dit c'est du high level, je ne dis pas le nom des imams, il a dit imam là il transporte à nous sa lecture, il a dit moi on a un tel ajib son niveau de lecture, nourun ala nour ni'matun min Allah. Ça, c'est faveur de la part d'Allah. Mais cette d'admiration pour la belle lecture et ce istima', ce n'est pas suffisant. L'étape qui vient juste après, ça s'appelle at-tadabbur. Et Allah nous demande de méditer sur le sens des versets, et Allah fait même des reproches. Des reproches. C'est-à-dire que c'est un manquement. Afala yatadabbaruna al-Qur'an, ne médite-t-il pas? C'est-à-dire, on peut traduire par pourquoi ne médite-t-il pas sur le sens des versets? Ça veut dire que le croyant qui n'a pas une connexion avec le contenu, et non pas uniquement le matin, pas uniquement ce qui est révélé, mais le message, c'est quelqu'un qui a un manquement de sa foi et il ne pourra jamais voir son iman atteindre le plus haut degré. Il ne peut même pas rêver au ihsan et au plus haut degré de la taqwa. Ikhwani fillah, akhawati fillah, ne nous privons pas de la richesse du Coran. Richesse du Coran parce que le Coran, c'est le livre protégé par Allah. C'est un livre qui est complet. Le Coran trace toute l'histoire de la création depuis ce qu'on appelle Bad'ul Khalqi, depuis le début de la création, quand il n'y avait rien, quand il n'y avait que Allah, wa kana 'arshuhu 'ala al-ma', et qu'Allah débutait la création. Il y a des versets qui nous parlent du début de la création. Et le contenu du Coran va jusqu'à l'après-fin du monde. C'est quoi cette histoire encore? L'après-fin du monde. Nous, on connaît la fin du monde. Alamatusa, Ashatusa, Asura, petit signe, moyen signe et grand signe. On connaît l'au-delà. Non, on ne parle même pas de l'au-delà. On parle de l'après-l'au-delà. L'après-l'au-delà, c'est quand tout est terminé. Il n'y a plus besoin d'utiliser le mizan. Il n'y a plus personne qui passe sur le sirat, sur le pont. Mizan, c'est la balance. Il n'y a plus les étapes, c'est fini. S'il y avait, Allah seul ne sait combien de créatures qui vont être jugées, s'il y avait 2000 milliards de créatures qui vont être jugées, mais quand tout est fini et que les étapes de l'au-delà sont terminées et que les gens du paradis sont dans le paradis et que les gens de l'enfer sont dans l'enfer et que tout est fini, qu'est-ce qui se passe à ce moment? Mais là aussi, on a des versets de la sourate Al-A'raf et d'autres sourates du Coran qui nous expliquent qu'est-ce qui se passera après, quand on entre dans la phase du temps infini, quand on entre dans la phase de l'éternité et du bonheur éternel où Allah nous protège du malheur et de la, des châtiments éternels. Comment se passent ces situations-là? Et ce qu'on va essayer en quelques instants de mettre en avant, c'est voir quelques versets qui nous donnent une description précise de leur, des échanges qui auront lieu ce jour. Parce que ces personnes qui vont connaître ces deux situations, soit khuloud fil jannah, soit khuloud fil nar, soit l'éternité de le paradis, Allahumma ja'alna minhum, aminu, dit amin, soit le khuloud fil nar, nasallallahu alayhi wa salamata, wa la afiya, Allahumma ja'alna minan nar. Ces gens-là ne meurent pas. Pour les gens du paradis, alhamdulillah qu'ils ne meurent pas. Mais pour les gens de l'enfer, la pire des choses, c'est de ne plus pouvoir mourir. Et le dernier verset qu'on avait l'intention d'aborder, c'était le verset du désespoir des gens de l'enfer. Être de l'enfer, qu'Allah nous protège, protège nos proches, protège les gens qu'on aime et les gens qu'on n'aime pas non plus. Enfin, on ne doit pas avoir des gens qu'on n'aime pas, mais protège tout le monde de l'enfer. Mais il faut savoir que l'enfer, avec ses châtiments, au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle le désespoir des gens de l'enfer. Tout comme pour le Jannah, les bienfaits du paradis, ce n'est pas encore le summum. Au-dessus des bienfaits du paradis, il y a quelque chose qui est encore plus fort. C'est la conversation avec Allah. Et pour les gens de l'enfer, la pire des choses, c'est lorsque, autant le dire, parce qu'on ne va pas couvrir toute l'intervention, c'est lorsqu'ils demanderont « Anadaw, ya Malik, liyakudhi alayna rabbuk ». Ils vont interpeller Malik. Et qui est Malik? Le gardien de la porte de l'enfer. Ils vont demander « Oh Malik !» Après une autre étape où ils vont demander qu'Allah diminue et diminue ne serait-ce un jour de azab. « Yukhaffif anna yawman min al-azab » Ils savent pertinemment qu'ils ne vont pas en sortir. Qu'Allah nous protège de cette situation. Qu'Allah nous protège de l'entendre et pire encore de le dire. Parce que chaque verset qu'on va citer, c'est en rapport avec ce que nous allons dire ou ce que nous allons entendre. Parce que les personnes, les personnages et les entités qui vont être citées dans les versets, c'est soit nous, soit c'est forcément des êtres humains. Des gens, soit c'est nous, soit c'est d'autres personnes. Espérons que ce soit nous quand ce sont dans de bonnes situations. Mais Garde en esprit que quand ça concerne l'au-delà, quand ça concerne le Jahannam, ça peut être également nous, c'est-à-dire tout ce que les gens vont dire et entendre et ce que nous allons voir et constater. C'est-à-dire que le visuel de l'au-delà, les versets qui parlent de ce que nous allons voir, mais plus précisément le verset qui rappelle les conversations de l'au-delà. Les conversations de l'au-delà où les gens de l'au-delà parlent. Celui qui reçoit son livret de compte de la main droite, qu'est-ce qu'il dit ? Celui qui reçoit son livret de compte de la main gauche, comment est-ce qu'il réagit ? C'est-à-dire, c'est des kalamunas. Ce sont des paroles d'êtres humains qui vont sortir, les mêmes paroles de la bouche de chaque personne dans les mêmes situations. Conversation dramatique des gens qui sont devant l'enfer. Vous vous rappelez, il y a 4 ans, il me semble, on avait essayé de décrire le Jannah, des hadiths qui parlent du paradis, et de décrire la réaction des gens lorsque la porte du paradis est ouverte. Et quelles sont les premières choses? Quels sont les sens qui sont interpellés? On parle des sens, des 5 sens. C'est tout d'abord, l'ouïe, il entend les ruisseaux du paradis. Ensuite, l'odorat, il sent le parfum extraordinaire et qu'aucun être humain ne peut imaginer qui vient du Jannah. Et enfin, le visuel, et là, la personne flash, et la personne est saisie par la beauté du Jannah. C'était des descriptions magnifiques à la lumière des versets du Coran. Mais il y a également des versets qui parlent de la première vision de l'enfer. Lorsque les gens sont devant le Jahannam, et qu'ils voient le Jahannam, et qu'ils savent que c'est eux, Ahlun Nar, et qu'ils vont y être jetés dans un instant, c'est une question de secondes, avant que visage premier, ils sont jetés dans l'enfer. Mais qu'est-ce qu'ils voient, et qu'est-ce qu'ils pensent intérieurement? Ce sont des versets qui sont choquants. En général, on évite tout ça. On aime bien le tarhib, voilà, Allah nous donnera ça. Mais le vrai la vraie da'wah, c'est tarhib ou tarhib. En même temps, on sait qu'est-ce qui va se passer de bien. Mais attention, les mises en garde, parce que personne n'est à l'abri de ces situations de l'au-delà. Notre objectif, c'est de voir également l'émerveillement des gens du paradis lorsqu'ils y sont. C'est de voir également le kalam, les échanges entre les gens du Jannah lorsqu'ils se rendent visite. Et le summum, c'est la magnifique conversation avec Allah. Au vu du timing, on va se contenter d'une présentation des versets avec traduction, pas de tafsir. Le but, c'est peut-être un peu d'éveiller notre curiosité spirituelle, notre rahba, notre motivation pour aller voir le contenu des versets. Là, on a juste entendu la traduction, une petite explication pour donner un sens, mais le vrai tafsir est beaucoup plus fort, beaucoup plus profond, et ça fait naître vraiment la lumière de l'iman de notre cœur, et c'est à la lumière de ces versets qu'on trouve l'ikhlas. C'est ces versets-là qui seront la source de notre istiqama. Ce sont ces versets qui seront la source de notre muraqabatullah, de notre pensée permanente, c'est-à-dire toutes les actions du cœur qu'on a citées en début d'intervention. Ben, si on veut trouver la force de les faire naître, maintenir, développer, atteindre le summum, c'est par les versets du Coran, parce que le Coran touche les cœurs. Et les versets du Coran, c'est Hudalil Muttaqin. Le Coran pénètre ton cœur quand la lumière du Coran pénètre ton cœur. Je ne dis pas effleure tes oreilles. Quand il pénètre ton cœur, Allahu Akbar, ça change un homme. Ce n'est pas pour rien si c'était un mushrikin, adorateur de pierres et d'idoles à Makkah. Ils entendaient Hamim, les différents versets, les différents ayats révélés à Makkah, et ça faisait comme un électrochoc spirituel, ça réveillait quelque chose, et immédiatement disait que ça c'est pas kalam ou le bachar, ça c'est une parole, c'est un niveau qui vient d'outre monde, d'un autre monde, d'outre tombe on pourrait dire, ça vient d'Allah, ça vient du Seigneur. Et donc les versets, quand ils touchent un cœur qui est sincère, qui aime Allah, qui veut se rapprocher d'Allah, ça a son effet. Donc l'objectif, c'est une prise de conscience des étapes de l'au-delà, mais des versets qui les décrivent afin de faire naître en nous l'envie d'étudier les versets et de ne plus passer à côté. On avait 4 points d'intervention, un verset peut-être par thème. Je sais plus, on a commencé à quelle heure? On a jusqu'à quelle heure? Faut me dire clairement. Il est 14h20. Un bail farouche, jusqu'à quelle heure? Il est plus là. Hein, président? 15h? Khalas, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنيد على سورة هود ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. C'est un jour où les gens seront rassemblés. On parle du qiyam. C'est un jour où les gens seront rassemblés et c'est un jour solennel. C'est pas la bonne traduction. يوم مشهود, c'est-à-dire un jour qui sera attesté et vu par tout le monde. Mashhoud qui vient du verbe shahida, être présent, témoigner et voir quelque chose de ses propres yeux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une créature qui a été créé. Une créature, c'est ce qui a été créé, clairement. Il n'y a pas une créature qui ne verra pas le Qiyama. Toute créature, toute âme qui a existé à un moment de ce dunya verra le Ardul Mahshar et verra le-delà et les étapes qu'on va essayer de citer. As-Sa'di, rahimahullah, explique ذلك يوم مجموع له الناس, c'est un jour où les gens seront rassemblés. Hey, jumi'u li ajli ذلك اليوم, ils seront rassemblés pour ce jour. Mais en fait, on a été créé pour l'adoration d'Allah, mais tout ce qu'on est en train d'accomplir, subhanallah, ceux qui ont 39 ans, 40 ans, 50 ans, 75 ans, le 60e Ramadan de notre vie, ceux qui viennent de revenir vers l'islam, leur premier peut-être Ramadan de leur vie, leur premier hajj, ceux qui ont déjà fait 12 umrah, ainsi de suite, ben ces bonnes actions, l'objectif c'est quoi? C'est que le jour de Qiyama, mon livret de compte m'est remis dans la main droite, que ces actions sont mises dans la balance de la mizan. Vous croyez, est-ce qu'on croyait que les bonnes actions c'était juste un mode de vie? Est-ce qu'on croyait que les bonnes actions, ça se limitait à un rituel, à des bonnes manières, à des habitudes, à une règle de bienséance concernant la vue du Coran? Là, wallah, les bonnes actions, ce sont des choses que tu accomplis pour Allah et que tu présentes à Allah et qui seront jugées par Allah et qui seront acceptées, inshallah, par Allah et qui te permettront d'avoir des darajat, des degrés de la Jannah. C'est-à-dire, il n'y a pas une action qu'on aura accomplie dans notre vie, dans notre zindagi, si on peut dire, qui ne sera pas mis et pesé dans la balance. D'où l'importance de ce qu'on appelle ihtisab al-ajr, action du cœur également. Dans Riyad al-Salihin, il y a beaucoup de hadiths sur al-kitab al-ihtisab, l'espoir de rétribution. Ça fait partie des bases qu'on a occultées complètement, qu'on a du mal à travailler. Le ihtisab, là on va sortir du sujet, mais ihtisab al-ajr, c'est quand tu accomplis l'action, tu es persuadé qu'Allah va m'accorder une récompense et tu as l'envie de rencontrer Allah pour trouver ce madja, cette récompense auprès de ton Seigneur. C'est pour ça que le mu'min aime rencontrer Allah. Et de l'autre sens, la crainte des conséquences des péchés, c'est lorsque tu accomplis un péché, c'est pas que bon, la fait bon, allez pardonne, tourne la page et avance. Non, tu as accompli ce péché, tu sais pertinemment que viendra le jour où ce péché me sera présenté. Et Allah me demandera pourquoi est-ce que tu as accompli telle chose et que ce péché aura son pesant dans la balance. Et donc, quand on a intégré cette notion de ihtisab, d'espoir, de rétribution, tout comme de crainte de châtiment, mais pour la deuxième partie, pour la crainte de châtiment, quelle est la réaction de foi immédiate du croyant? C'est walladina idha fa'alu fahishatan. Parce que ça fait partie de la nature de l'être humain que d'accomplir des péchés. Pense à Allah, dhakarullah, Allahu Akbar. Qu'est-ce que j'ai fait? Ya Rabb, tawba, ya Allah. Dhakarullah, il pense au regard d'Allah. Il pense aussi aux malaïkas qui ont écrit l'action. Fastaghfiru lidhunubihim, demande immédiatement pardon. Ces qualités intérieures, si on les a développées, c'est ça qui nous permettront de trouver le istiqama. Dhalika yawmun majmou'un lahun nas, c'est le jour pour lequel nous œuvrons. Nous accomplissons des bonnes actions et jour pour lequel nous nous éloignons de beaucoup de choses qui sont interdites et toutes les frustrations que nous vivons, surtout quand on est jeune. Quand on est jeune, 17 ans, 18 ans, surtout quand on est 18 ans, qu'on vient d'avoir le PMI, Allahu Akbar, Allahu Akbar, on est le PMI, et que théoriquement, 18 ans, la première sortie, avec les camarades, c'est samedi soir, allons Saint-Gilles, allons enfin prendre un peu de temps, un peu de plaisir, à s'amuser. 18 ans, on peut entrer également dans ces endroits qui sont interdits aux mineurs. On peut consommer ce qui est interdit aux mineurs, ce qui est interdit par notre Seigneur avant tout. Et donc, l'âge de la grande liberté, wallah musta'an. Mais ce jeune mu'min, ce jeune homme, ou cette jeune fille qui est éperdument amoureuse de ce jeune homme, de ce beau garçon, qui a trouvé les mots pour la séduire et qui a trouvé le gestuel et la façon de se comporter pour trouver une place dans son cœur, mais elle sait pertinemment qu'elle ne doit pas aller vers le haram. Ce n'est pas parce que toutes mes copines à l'école, elles sortent avec un garçon et que, excusez-moi, je ne veux pas être cru, mais que selon les derniers chiffres, la première relation sexuelle, c'est en général à 15 ans. Et que elle se dit que c'est pas parce que ce sont les chiffres de la société que je vais tomber de ce piège satanique là, wallah. Et donc, ces frustrations, le fait de dire non, le fait de refuser le haram, le fait de fermer les portes, les fenêtres, toutes les entrailles, tout ce que le moindre courant d'air des waswas de Shaitan, on les ferme pour Allah. Tout ce qu'on a subi comme frustration, le jour de Qiyama, c'est vraiment le moment de trouver le natija, le résultat. Et ça, c'est important de faire le lien entre ce dunya et le akhira, étape incontournable pour chaque créature. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود يشاهدون ماذا علامة سعدي explique qu'est-ce que les gens vont voir en ce jour. Et يوم مشهود, en ce jour on voit ce qu'on n'a pas le droit de voir de ce monde. On voit ce qu'un être humain ordinaire ne peut pas voir. C'est-à-dire qu'on a la vision du monde de l'invisible. يشهدون عظمة الله ملكه سلطانه وعدله العظيم. L'homme voit l'étendue de la création d'Allah. Je pensais avoir tout vu parce que j'ai voyagé dans beaucoup de pays, j'ai vu les 5 continents. Mais quand la personne voit l'au-delà, quand la personne voit le monde des anges en réalité, quand la personne voit l'enfer qui se présente, c'est là que l'être humain réalise la puissance de son Seigneur, la grandeur de son mulk, maliki, je l'ai dit combien de fois, maliki, yawmuddin. Mais je n'ai jamais réalisé que yawmuddin, c'est un jour qui est terrible. C'est en ce jour que l'homme réalise l'effroi. Et comment ce jour est terrible. Mais fais le lien entre Yawmuddin et Malik, ya akhi. Réalise que ce jour-là, il est sous le contrôle d'Allah. Et donc, jette-toi en prosternation devant le Malik Yawmuddin, devant le Rahman, le Rahim, pour réaliser vraiment qu'en ce jour, tu auras besoin de ton Seigneur. Saadi dit, n'attends pas, ô musulman, de voir le Qiyama pour réaliser la grandeur de ton Seigneur, pour enfin connaître les réalités de l'au-delà. Sois ce croyant qui les aura étudiés et appris de ce dunya, de ce monde, et ne sois pas cette personne qui, à la première vision de l'au-delà, le cœur est rempli d'effroi, mais sois plutôt ce croyant qui aura développé les qualités intérieures et les qualités externes, les amal al-qulub et les amal al-jawari, et qui le jour de Qiyama est ressuscité avec la tranquillité du cœur. Parce que ce croyant a quitté le monde avec tranquillité. Et quand on quitte ce monde avec cette bonne nouvelle, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya, quand on est ressuscité, c'est également avec eux les mêmes bonnes nouvelles. Hadith de lequel le prophète alayhi salatu wasalam a dit que Allah n'accorde pas deux craintes ni deux espoirs à une même personne de ce monde. À une personne dans les deux mondes. C'est-à-dire que celui qui est dans ce monde, on va aller vers ce qui nous intéresse, celui qui est dans ce monde a vécu avec la crainte d'Allah, la pensée d'Allah, Allah lui promet que le jour de Qiyama, il n'aura aucune crainte. Alors que celui qui a vécu de le rafraîchir de l'insouciance, il y a la promesse qu'il aura la pierre des craintes le jour du Qiyama. Donc, à la lumière de ce verset, on a dit qu'on ne fait pas de tafsir, mais on y est entré. Qu'est-ce que je dois retenir? Prépare ce jour. Connais ce jour. Réunis les qualités pour ce jour qui est mashoud, ce jour qui est terrible et qui sera vu par tout le monde. Yawma ya'ti, la suite du verset, la takallamu nafsun illa bi'idhni, faminhum shaqiyun wa sa'id, le jour où cela arrivera, et il arrivera ce jour. Nulle âme ne parlera qu'avec sa permission. Personne, le jour de Qiyama, n'a une importance auprès d'Allah. Il n'y a pas un chef d'entreprise, il n'y a pas un président, il n'y a pas un roi, il n'y a plus tout ça. C'était les règles de ce dunya. Le jour de Qiyama, il n'y a pas une personne qui avance ou qui dit quelque chose sans la permission d'Allah. فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ. Et Allah distingue deux catégories de personnes. Il y aura les damnés, c'est-à-dire les personnes qui sont condamnées à l'enfer, et les personnes qui seront heureuses. Al-Ashqiya, c'est ceux qui n'ont pas cru en Allah ou qui sont partis vers le péché, vers le nafs, le hawa, le shahawad, tout ce qu'on peut résumer, les portes qui mènent vers le mécontentement d'Allah. Et As-Su'ada, ce sont Al-Mu'minun Al-Muttaqun, ceux qui ont voué leur vie à l'adoration d'Allah Azza wa Jalla. La question que je me pose, maintenant que j'ai compris le sens global du verset, comme on a dit tout à l'heure, il y a soit Shaqi ou Sa'id, à moi de savoir dans quelle catégorie je veux être ressuscité, et donc à moi d'orienter ma vie pour être dans une de ces deux catégories. C'est le taqdir d'Allah, mais le amal, c'est le travail de l'être humain. Deuxième verset, on est dans la sourate Saba. Alhamdulillah, alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahu alhamdu fil akhirati wa huwa alhakim al-khabir. Louange à Allah, à qui appartient tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre, et louange à lui dans l'au-delà, et c'est ce qui nous intéresse, et louange à lui dans l'au-delà. Avec le Coran, vous avez les versets de l'au-delà, vous avez les noms et les attributs d'Allah en même temps. Et c'est lui le sage, et Al-Khabir, c'est le parfaitement connaisseur. On va directement vers la partie qui nous intéresse. Walahul hamdu fil akhira, Allama Sa'idi rahimahullah explique, li anna fil akhirati. Sache que les louanges d'Allah dans ce monde concernant la création de ce dunya, tout ça, ce sont des choses qu'on connaît, la grandeur d'Allah à travers sa création. Mais les louanges exceptionnelles d'Allah se font le jour de Qiyama, parce qu'en ce jour, la création voit l'étendue réelle de la création d'Allah, et c'est en ce jour que le mu'min voit réellement la clémence d'Allah, la bonté d'Allah, la gentillesse, la bienveillance d'Allah. C'est en ce jour que le croyant trouve les 99, complétez s'il vous plaît, les 99, hein, non, non, pas non, non, non plus. On n'avance pas sinon. Attribut, non. Les 99, c'était pour réveiller ceux qui commençaient à somnoler au fond. Hein? Oui, barakallah fi. Les 99 rahmat d'Allah. Allah, combien de rahmat? 100. Une rahmat d'Allah est destinée à ce dunya depuis le début de la création jusqu'au qiyama. Et cette rahma, elle brasse les peuples, les ethnies, les civilisations. Elle a franchi les couronnes, les siècles jusqu'au qiyama. Et c'est par cette rahma qu'une maman aime son bébé. C'est par cette rahma que les gens ont de la compassion entre eux. Cette rahma, elle englobe la création. Une rahma. Pour le monde entier. Muslim kafir. Mouahid mushrik. Pêcheur. Endurci ou muttaqin, tout le monde. Mais le jour de Qiyama, les 99 rahmas qui restent, Allah les garde pour les mu'minin. Allahumma ja'alna minhum. C'est là que le mu'min va voir vraiment l'étendue de la clémence d'Allah, et la parole qui sortira sera Alhamdulillah. Wa lahul hamdu fil akhirah. Lorsque le mu'min voit la gentillesse d'Allah, sa bonté, sa clémence dans chaque étape de l'au-delà, mais également le summum dans l'accès au paradis, que le croyant se rend compte comment est-ce qu'Allah le rétribue, lui accorde des choses qu'il n'avait même pas méritées. C'est le croyant, à cet instant, le croyant fait les hamd qui sortent le plus profond de son cœur. Mais également, Saadi répète, il précise, Ahlul Iqab, les gens qui ont désobéi à Allah, qui ont voué leur vie à soit l'adoration d'autres qu'Allah, ou n'ont pas cru en Dieu, ou ont désobéi en tourné le dos au Seigneur, même eux, le jour du Qiyama, ils vont reconnaître que la décision d'Allah est juste, et qu'Allah, وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ, et qu'Allah n'a pas été injuste envers eux. La parole, elle est, je le dis avec mes mots, حَتَّى أَهْلُ الْعِقَابِ مَا دَخَلُوا النَّارِ إِلَّا وَقُلُوبُهُمْ مُطْمَئِنَّ. Eux aussi, ils font les louanges d'un Seigneur qui a été juste dans ses comptes et qui ne les a pas opprimés, mais qui agit exactement comme il le mérite. Il n'y a personne qui rentre de l'enfer avec cette conviction qu'ils ont été opprimés par Allah. Ah, wallah. Et en ce jour, troisième verset, on est dans la sourate Al-Qiyama. Yaqul l'insanu yawma idhin aynal mafar. L'homme, ce jour-là, dira où fuir. Al-Qushayri, ça s'est rapporté par, je me trompe, Al-Shawkani, rahimahullah. Al-Qushayri dit que idha ayana. Et c'est là qu'on commence à toucher les versets qui parlent de ce qu'on voit, ce qu'on entend et ce qu'on dit. Lorsque l'être humain voit les situations de l'au-delà, le tribunal d'Allah qui se met en place, le mizan et tout ce qui dépasse c'est-à-dire l'entendement humain, c'est là que certains diront ayna al-mafar. Ou fuir, mais Allah dira qu'elle l'a à la il a rabbi kayyom aïdin il mustaqar. Pas d'autre issue si ce n'est que de se présenter devant Allah. Sens du verset, yunabba ul insan yom aïdin bima qaddama wa akhara. En ce jour, même si j'ai pas la traduction exacte, l'être humain sera informé de toute sa vie d'action, d'œuvre, tout ce qu'il a démarré, tout ce qu'il a terminé, tout ce qu'il a pu accomplir comme bonne, mais également mauvaise action. Wa wajadu ma amilu hadira. Présent. Tout ce qu'il a pu cumuler durant sa vie seront présentés à cette personne dans son livret d'action. Qu'est-ce que je retiens de ce verset? Sans entrer dans le tafsir, je retiens que c'est un jour où on aura besoin d'Allah. Je retiens qu'en ce jour, il n'y a pas de possibilité de s'enfuir. Qui voudra s'enfuir? Ceux qui n'auront pas cru au Yom al-Akhir de ce dunya. Donc je développe Iman bi Yom al-Akhir pour être parmi ceux qui seront rassurés le jour du Qiyamah. Yunabbaou l'insan yawma idin bima qaddama wa akhar, mes actions me seront présentées. Prépare-toi aux croyants. Ce verset, c'est un verset flash qui te permet de réaliser que travail, œuvre, réunis, apporte les bonnes actions, mais surtout n'apporte pas avec toi des péchés. Et quand je dis, quand on dit réunis le maximum de bonnes œuvres, c'est pas uniquement les ramadans de ta vie. Ça veut dire quoi? Est-ce que tu vas adorer Allah pendant 46 mois de ta vie? Et les autres mois, c'est pour le dunya, pour le hawa, pour le nafs al-ammaratu bis-su. Ce serait un partage injuste. Ce serait le plus grand zulm que tu ferais sur toi. Et le jour de Qiyamah, on verra, on risque de voir les conséquences. Ainsi, la istiqama, la fermeté, elle trouve ses bases à travers ces versets qui rappellent ce retour vers Allah et le fait que les actions seront présentées. Donc, ne lâche rien. N'abandonne jamais ton namaz fajr. N'abandonne jamais ta lecture du Coran. N'abandonne jamais tes a'mal. Et ne retourne jamais vers les péchés. Parce que tout ça te seront présentés le jour de Qiyamah. Et en ce jour, tawaddu, law anna bayn, on me rectifie si je me trompe de le verset, law anna baynaha wa baynahu amadam ba'ida. Le pécheur aura un seul souhait en ce jour, lorsqu'il verra ses péchés, qu'il y ait une distance entre lui et ses péchés. Amadam ba'ida. Si seulement ces péchés-là étaient éloignés de moi. Alors que dans ce dunya, il faisait tout pour les avoir. Cette jolie demoiselle que je regardais tous les matins en ouvrant le panneau, en ouvrant mon bureau, et que je rêvais de m'approcher d'elle. Je rêvais de trouver une solution pour avoir un contact. Tu veux te rapprocher du haram. Tu veux te rapprocher de la tentation du péché. Je veux dire, Qiyama, Bainahu, il aurait souhaité qu'il y ait une distance qui le sépare à Madame Barida. Tellement le péché sera lourd en conséquence, prise de conscience entre mes décisions de ce monde et la réalité dans le delà. Hala. On va donc passer à une autre rubrique parce qu'il y avait 8 versets, ça risque d'être un peu long. Il y a les versets des remords, il y en a beaucoup, tout ce qui concerne par là où antaqul nafsu ya hasrata. Ce sera le dernier de cette rubrique. Antaqul nafsu ya hasrata ala ma farratu fi jambillahi wa in kuntu la min as-safirin. Avant qu'une âme ne dise, c'est-à-dire que suis les ordres de ton Seigneur et ne sois pas cette personne qui, le jour de Qiyama, n'aura d'autre alternative que de dire avec des remords, « Ya hasrata, malheur à moi pour mes manquements vers Allah, car j'ai été parmi les railleurs, c'est-à-dire ceux qui se moquaient du dîn. » Et il dira, « Law anna Allah hadani, si seulement Allah m'avait guidé, j'aurais été certes parmi les pieux, et ainsi de suite. » Donc, les remords de l'au-delà n'apporte rien à l'être humain. Les remords de ce dunya ne sont profitables parce que les remords, ce sont une des conditions obligatoires pour le tawbatun nasuha, pour trouver le pardon d'Allah, pour que le pardon soit accepté. Verset de la sourate Amma yatasaalun wa yaqulu al-kafiru ya laytani kuntu turab. La personne, le kafir, le jour de Qiyama, aurait souhaité, comme j'aurais aimé, n'être que poussière. En voyant le ahwal, les situations, la personne qui a construit des bâtiments, qui a eu l'honneur de ce dunya, en ce jour, la personne aurait aimé même pas avoir connu un jour de ce dunya, alors que dans ce monde, ce dunya était la chose la plus importante pour elle. Les versets de la sourate, où Allah Rabbul Izza rappelle qu'Allah idha dukkatil ardu dakkan dakka, et tout ce que tu vois, وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ. Tu vois Allah qui se présente, le tribunal d'Allah qui se met en place. وَجِئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ. Le mu'min voit l'enfer qui est présenté à la création. Ce sont des choses que nous allons voir, c'est immanquable. Et ce sont des échanges, des conversations qui auront lieu et que nous allons entendre. Qu'Allah nous permet d'avoir une situation de l'au-delà où on sera épargné de tout ce qui est mauvais et que bien au contraire, être ressuscité parmi les pieux, c'est avoir la garantie de n'entendre que ce qui est positif parce que ce sont des gens qui trouvent la récompense auprès d'Allah et l'assurance qui vient d'Allah dans ses premières étapes. Deuxième, on va dire rubrique, deuxième thème, les conversations des gens de l'enfer. On va aller plus vite. ولو ترى on est la sourate al-an'am ولو ترى إذ وقفوا على النار si tu les voyais Allah Rabbul Izzat parle au prophète alayhi salat wa salam le prophète qui vit avec des gens qui ne croient pas en Allah et qui le défient qui l'insultent et on connaît l'histoire on connaît la sourate Allah Rabbul Izzat dit si tu les voyais quand ils seront placés devant le feu ça c'est le verset qui parle des personnes qui doivent entrer dans le jahannam mais qui n'y sont pas encore voilà utara et lorsque tu les verras c'est-à-dire que dans ce dunya laisse-les agir comme ils veulent si Allah n'a pas écrit la hidayah pour eux et si eux ils persistent dans le mauvais chemin ne considère pas leurs agissements comme une injustice sache que justice c'est que dans le delà lorsque nous voyons à travers l'actualité ou à travers nos expériences personnelles, quand il y a un vol entre deux individus, ou entre deux nations, ou entre des pays, où des populations se font massacrer, on voit que, on se dit parfois intérieurement au plus profond, même si on essaie, on ne veut pas que ça sorte, mais comment? Mais pourquoi? Comment est-ce possible? Des croyants, des mu'mines, et de l'autre côté des zalim, comment est-ce qu'Allah laisse de telles choses se produire? Sache que ce monde n'est pas une finalité. Et autant il y a du zulm de ce dunya, le mazloum, vous allez l'opprimer, aura un rang exceptionnel le jour de Qiyama. Et l'oppresseur, même s'il a bénéficié de l'honneur, de la richesse, de la renommée, de la reconnaissance internationale, et que tout le monde dit non, il n'y avait pas de mal à ça, le jour de Qiyama, c'est ce qui compte. Mourir avec l'honneur, ce n'est pas un objectif de ce dunya. L'objectif, c'est de mourir avec l'agrément d'Allah Azza wa Jal et autant de zalim qui seront présentés à l'enfer. Faqalu ya laytana. Tout à l'heure, c'était ya laytani. Là, c'est ya laytana parce que ce sont des groupes de gens qui vont le dire. Nuraddu. Si tu les voyais, quand ils seront placés devant le feu, ils diront alors, hélas, si nous pouvions être renvoyés sur terre, wala nukadhiba bi ayati rabbina. Nous ne traiterions plus de mensonges les versets de notre Seigneur. La justice, c'est la justice de l'au-delà. Mais ne sois pas cette personne qui sera dirigée vers la porte de l'enfer. Craignez, éloignez-vous de l'enfer par les bonnes œuvres. Même en donnant un morceau de date en aumône, c'est-à-dire n'importe quelle action qui peut nous permettre de nous aider du jahannam, on doit le faire. Celui qui a pu s'éloigner de l'enfer et qui est accès de Jannah, c'est l'homme qui a vraiment réussi. Réunit donc les qualités et les a'mal. Verset suivant de la sourate Al-A'raf. Ça va être un peu long, on va essayer de passer, on va essayer d'avancer, passer d'autres sourates difficiles. On ne peut pas faire un choix entre les versets, c'est compliqué. Sourate Sa'd. Hada fawjum muqtahimum ma'akum. La marhaban bihim. Quand on dit marhaba, ça veut dire quoi? Sois le bienvenu. Dans le jahannam, les ummah, les groupes, les communautés vont y entrer, qu'Allah nous protège. Instant après instant, les gens entrent massivement dans le nar au jahannam. Et à chaque fois qu'un groupe voit un autre groupe qui arrive, ils les maudissent. La marhaban bikum. Innahum salun nar. Bal antum la marhaban bikum. C'est plutôt à vous. Les malédictions, ils se les renvoient mutuellement. Qu'Allah nous protège d'une situation où on doit, où on a entendre les malédictions, les larnettes des gens de l'enfer. Parce que l'enfer, et ça je le dis, le dos bien droit et droit dans mes bottes et à la lumière des versets du Coran, ne pensons surtout pas que l'enfer est réservé pour ceux qui n'adoraient pas Allah. Le prophète alayhi salatu wasalam précise que dans l'enfer, il y aura des mu'min, des ahlut tawhid, des gens qui priaient, qui jeûnaient, mais qui devront passer par le jahannam à cause de leur péché. Et c'est un des hadiths de Shafa'a, d'intercession les plus connus. Le prophète alayhi salatu wasalam, lui, n'entre pas dans le jannah, il ne veut pas, tant qu'il reste un ummati dans le jahannam, il ira les chercher les uns après les autres, jusqu'à trouver le dernier. Et le prophète alayhi salatu wasalam décrit, il ira prendre un croyant, waqadim tuhishu, cette personne sera déjà brûlée, na'oudh billah, carbonisée, noircie par le feu de l'enfer, et il ira avec la rahma qu'Allah met de son cœur, le retirer pour le ramener auprès d'Allah, pour obtenir la shafa'a et pour le faire rentrer dans les fleuves du Jannah, pour retrouver sa splendeur et pour que ce ummati devienne jannati, parce que ummati c'est forcément synonyme de jannati un jour ou l'autre. Mais ne soyons pas ce croyant qui devra passer par le Jahannam pour être épuré de ses péchés. Soyons cette personne qui accède, Inch'Allah, sans avoir à rendre compte. Je vous passe les autres versets qui décrivent l'accueil et les malédictions des gens du Jahannam. Et les gens du Jahannam, ils n'arrêteront pas de dire en avant, de mettre en avant. Le verset, je ne vais pas le chercher, c'est dans Yas'aluka an-nasu 'ani as-sa'ah, yawma tuqallabu wujuhuhum fi an-nar. Ils vont dire quoi? Yaquluna yawma tuqallabu wujuhuhum fi an-nar, yaquluna, c'est quoi? Ya laytana ata'na Allah wa ata'na ar-rasul. Les regrets, si seulement on avait obéi à Allah et son prophète. Alors que de cette dunya, c'était les premiers peut-être à remettre en question, à philosopher parfois sur la religion, à philosopher sur la notion d'ordre, d'interdit, à parler du dîn alors qu'il n'avait pas de connaissance. Et je dirais ma ya laytana ata'na Allah wa ata'na ar-rasoula. Et ensuite, ce seront les relations entre eux. Inna ata'na sadatana wa kubara'ana. On a suivi, c'est eux qu'on a suivi. Et certains ont dit du'afa lilladhina istakbaru inna kunna lakum tab'a. On vous a suivi. C'est vous qui nous avez orienté avec les péchés. C'est vous qui nous avez expliqué que tel péché, il n'y a pas de mal, ainsi de suite. Et ils vont se faire des reproches mutuellement. Ce sont là les « Inna dhalika la haqqun takhasumu ahli an-nar nas'alullaha as-salamata wal 'afiyata min fitnat jahannam » et d'entendre la moindre conversation du feu de l'enfer. Et Allah dit que ça c'est « haqq », ça se passera comme ça. Et maintenant, on conclut cette deuxième partie avec une situation où tout est terminé. Les gens du jahannam sont dans le Jahannam. On est dans la sourate Ibrahim. وَقَالَ الشَّيْطَانُ. C'est rare ça, de le Coran, il y a Shaitan qui parle. Allah relate ce que le diable dira le jour de Qiyama. Pas le jour de Qiyama, quand le Qiyama sera terminé. وَقَالَ الشَّيْطَانُ. Et quand tout sera الْأَمْرُ. Et quand tout sera accompli, c'est-à-dire quand c'est terminé, le diable dira إِنَّ اللَّهِ. Il dira à qui d'après vous? Aux gens de l'enfer qui sont avec lui. إِنَّ اللَّهَ. Mon Seigneur, Allah. Iblis dira, mon Allah, mon Rabb. Inna Allah wa'adakum wa'ad al-haqq. Allah vous a fait une promesse de vérité. Tout ce qu'il y avait de Coran, c'était vrai, c'était haqq. Wa wa'adtukum. Et moi, je vous ai fait une promesse mensongère. Je vous invitais vers l'adultère, vers l'intérêt, emprunte de l'argent avec la banque, construis ce bâtiment, il n'y a pas de mal, fais telle chose, accepte telle chose, vis une vie de liberté, il n'y a pas de mal, il y a Allah et Rahman, Rahim, je vous ai fait de fausses promesses que je n'ai pas tenues. Fa'akhlaftukum. Shaitan dit, wa ma kana li 'alaykum min sultan. Je n'avais aucune autorité sur vous. Shaitan ne nous oblige pas à aller vers le mauvais chemin. Illa an da'outukum. Si ce n'est que je vous ai appelé. Fastajabtum li. Da'outukum. Fastajabtum li. Je vous ai appelé et que vous m'avez répondu. Quand Shaitan il met al-ladhi yuwaswisu fi suduri an-nas. Mais c'est ensuite, c'est ton cœur qui donne l'ordre à tes membres d'aller faire le péché ou non. Donc, on a suivi. Qu'on réalise ça, la lumière de ce verset. L'homme qui désobéit à Allah. Grand péché, petit péché. Kabaïr ou sa'ir, quel que soit le péché, quand tu as accompli le péché, c'est qu'à l'instant T, tu as décidé de ne pas obéir à Allah et d'obéir à Shaitan. Et Shaitan te le rappellera, Inch'Allah non, mais rappellera au pécheur que je vous ai fait une promesse, je vous ai invité, c'est vous qui avez accepté. Et il dira, ne me faites donc pas de reproches, me faites-en à vous-même. Jusqu'à la fin du verset, Shaitan dira clairement, je ne suis pas responsable de votre égarement, c'est uniquement vous êtes les seuls responsables qu'Allah nous protège. Donc, situation de péché, n'oublions pas que c'est Shaitan qui nous aime, oui, qui aime le pécheur, et qui nous amène, je voulais dire qui nous amène, mais... Même ça, Shaitan aime le pécheur, parce que ça fait partie de ses Qurana. Shaitan nous amène vers le péché, il nous fait aimer. Afaman zuyyina lahu su'u. Il fait en sorte que les péchés te paraissent comme quelque chose de merveilleux, de magnifique, alors qu'Allah Rabbul Izzat t'a rappelé que tout ça, c'est dalal et perdition. Conversation des gens de l'enfer. On n'a pas beaucoup développé, parce que c'est violent, mais piste de lecture, Inch'Allah. Conversation des gens du paradis. Et là, on retrouve le sourire. On est dans la sourate. Je n'ai pas écrit le numéro de la sourate. Le nom de la sourate. « وَقَالُ الْحَمْدُ لِلَّهِ » Dans le Jannah, ce n'est que « الْحَمْدُ لِلَّهِ » Dans le Jahannam, c'est « يَا لَيْتَنِي » Si seulement, dommage. Dans le Jannah, c'est « الْحَمْدُ لِلَّهِ » « الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا » Elle dit « louange à Allah » qui nous a guidés à ceci. « وَمَا كُنَّا لِنَهْدَيَا لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهِ » Nous n'aurions pas été guidés si Allah ne nous avait pas ne nous avait pas guidés. Verset qu'on ne va pas commenter, les gens du Jannah voient le paradis et ils remercient, louange à Allah qui m'a guidé vers ce Jannah. Allah m'a donné les qualités, la hidayah, pour avancer dans le droit chemin. Et à chaque fois qu'on demandait, ihdina as-sirat al-mustaqim, guide-nous vers le droit chemin, le ulama Sa'di rahimahullah dit que celui qui toute sa vie a avancé dans le droit chemin, le jour de Qiyamah, on a espoir que cette personne fasse partie de ceux cités de Tabarakalladhi, afaman yamshi mukibban ala wajhi ahda, amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Le jour de Qiyamah, des gens, ils sont ressuscités et ils avancent directement dans le, c'est-à-dire l'au-delà. C'est la continuité de ton parcours de ce monde. Si tu as vécu dans le droit chemin, tu continues sur un chemin qui est rectiligne jusqu'à l'accès au Jannah. Allahumma ja'alna minhum. Que nous soyons tous parmi ceux qui diront, même si on ne le mémorise pas. Là, le frère dit, il faut apprendre le verset là par cœur. S'il ne m'y connaît pas, Alhamdulillah, il a dit, hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Peut-être je ne le dirai pas, il faut que je le mémorise aucunement. Ça sortira tout seul. Chaque Ahlul Jannah remerciera Allah de cette façon. Allahumma ja'alna minhum. Wasiqa alladhina attaqaw. Ça, c'est les versets des imams. Wasiqa yamliya de l'Irakaat, parce que c'est beau, c'est magnifique. Wasiqa alladhina attaqaw rabbahum ila jannati zumara. Allah, Allah, Allah. Allahumma ja'alna minhum. Et ceux qui avaient craint leur Seigneur, craint leur Seigneur. Amalul quloub. Ceux qui avaient craint leur Seigneur, et quand on dit craint d'Allah, c'est accompagné de amal. Qui craint Allah, accomplit de bonnes œuvres, seront conduits par groupe au paradis. Puis, quand ils y parviendront et que ces portes s'ouvriront, et je vous passe du magnifique tafsir Ibn Kathir, qui disent pourquoi est-ce que dans un endroit il y a hatta idha ja'uha wa futihat, et à un autre il n'y a pas wa futihat. C'est la différence entre l'enfer. L'enfer, quand les gens y sont présentés, l'enfer est déjà ouvert, la porte est ouverte. Quand les gens arrivent dans l'enfer, nas'alullah al-afiyah, la personne est présentée à l'enfer, la porte est déjà ouverte. De loin, la personne commence déjà à brûler, à ressentir la chaleur de l'enfer. Et comment est-ce que les gens de l'enfer entrent dans l'enfer? Par le visage, nas'alullah al-afiyah, jeté face première de le jannah. Alors que dans le jannah, la personne, j'ai dit, je commente pas, on finit par commenter, parce que c'est tout simplement magnifique. Et on veut vivre cette deuxième partie lorsqu'un homme a passé toutes les étapes de l'au-delà, toutes, mais toutes, jusqu'à arriver au jannah et qu'il a le visa, en guillemets, pour accéder au jannah. Il n'entre pas tout de suite au paradis. Il attend. Il attend le shafa'at du prophète alayhi salat wa sallam, sur certains, on faisait d'autres choses, jusqu'à ce que les portes veulent bien s'ouvrir. Parce que le jannah, la porte s'ouvre avec l'ordre d'Allah. Et c'est là que, après l'attente, la porte s'ouvre et la personne découvre le bonheur, que pour le jahannam, c'est directement vers le al-azab wa nakan, sallallahu alayhi wa sallam. Ils vont dire quoi? Wa qalu Alhamdulillah, encore Alhamdulillah, il a dit sadaqana wa'ada, louange à Allah qui nous a tenu sa promesse et nous a fait hériter la terre, c'est-à-dire ce Jannah. Nous allons nous installer dans le paradis là où nous voulons. Ni'ma ajrul amilin, que la récompense de ceux qui font le bien est excellente. Ça veut dire que l'accès au Jannah, la vision du paradis, c'est le résultat, c'est la fin de ton parcours spirituel. Et ton rêve de croyant, c'est d'être avec une de ces umrahs, de ces groupes qui avancent et qui diront un jour, Alhamdulillah, il a dit sadaqana wa'ada. Allah nous a promis et c'est sa promesse, elle est vraie. Et nous vivons à l'instant sa promesse. Autre verset du paradis, on est dans la sourate Yunus. Innal ladhina amanu wa 'amilus salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihim al-anharu fi jannatin na'im. Qu'est-ce qu'ils vont faire comme du'a? Da'awahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhir da'awahum anil hamdu lillahi rabbil alamin. Ce même alhamdu que tu lis dans la prière, on le lira inshallah dans le jannah. Ceux qui croient, ils font de bonnes œuvres. On va vers la fin du verset là, c'est-à-dire dans le jannah, leur invocation sera gloire à toi ô Allah. Leur salutation salam est la fin de leur invocation, louange à Allah, Seigneur de l'univers. Incha'Allah, c'est adhkar, nous le ferons de le jannah et nous entendrons nos frères, nos parents, nos enfants qui au fur et à mesure nous rejoignent, lire les mêmes versets. Ce sont les versets de les premières paroles qui sortiront de la bouche des gens du Jannah, des choses que nous entendrons et que nous dirons Incha'Allah. Dernier verset qu'on a gardé pour le Jannah. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. On est à la sourate Fatir. إن ربنا لا غفور شكور. Encore deux noms d'Allah. Et la personne qui rend le paradis, louange à Allah, qui a écarté de nous l'affliction, le hazan, tout ce qui cause des soucis de ce monde. La peur du lendemain, la peur de la mort, tout ce qui est source de hazan, le jour de Qiyama, ce n'est pas uniquement des bienfaits autour, c'est un cœur qui est apaisé totalement. Il n'y a plus rien qui inquiétera le cœur d'un croyant le jour de Qiyama, et il mettra en avant le nom d'Allah Ghafour. C'est par son pardon que j'ai accédé, pas par mes qualités. Shakur, il y a Shakur, c'est celui qui donne beaucoup plus que ce qu'on mérite. J'ai fait un petit peu d'action, mais Allah l'a a décuplé, a multiplié ses bonnes œuvres et m'a fait atteindre un degré que je ne pensais pas. Quatrième et avant-dernier thème, ça tiendra en 10 minutes, inshallah, les conversations entre les gens du paradis et les gens de l'enfer. C'est les versets de Wanada, surat al-A'raf, Wanada ashabul jannati ashabul nar. C'est un petit peu long, effectivement, on va juste résumer. Ou alors juste parler du contenu. Ça commence par l'information que tout ce qui est négatif sera enlevé du cœur des gens qui entreront au paradis. Et que, un verset seulement, on va s'arrêter avec ce verset pour cette partie. Wanada ashabul jannati ashabul nari an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa. Les gens du paradis crieront aux gens de l'enfer, certes nous avons trouvé vrai ce que notre Seigneur nous avait promis. Et là, quand ils vont demander aux gens du Jahannam, c'est pour se moquer d'eux, d'une certaine façon, pour accentuer l'humiliation qu'ils sont en train de connaître en ce jour. Avez-vous aussi trouvé ce que notre Seigneur avait promis? Allah avait promis le Jahannam pour celui qui fait telle chose, telle chose. Et là, ils n'auront d'autre réponse que de dire « qalu na'am », de dire « oui ». فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. Plus d'échanges entre eux à partir de cet instant, annoncera alors au milieu des deux que la malédiction d'Allah soit sur les personnes injustes. Ça, c'est un extrait d'échanges entre les gens du paradis et les gens de l'enfer. On parle d'un passage de 2 pages d'un Coran de 13 lignes. Donc, comprenez qu'on ne peut pas tout aborder, mais à retenir qu'il y aura des échanges entre les gens du paradis et les gens de l'enfer. Fais en sorte d'être parmi les gens du paradis qui poseront des questions aux gens de l'enfer et qui attesteront que nous, ma wa'adana rabbuna haqqa, on a trouvé tout ce qu'Allah m'a promis, il l'y est. Alhamdulillah, il a dit sadaqana wa'ada. Mais vous l'avez trouvé, et là on verra que réellement les promesses d'Allah concernant la désobéissance étaient vraies, et que donc j'ai bien fait de m'éloigner de tout ce qui est haram, même si de ce monde c'est dur. C'est dur de se détourner du haram. Fais-le pour ce moment. Fais-le pour ces instants de l'au-delà. Hada. Et autre verset, je ne le retrouve pas, c'est un verset khaira inshallah qui rappelle que alhaqna bihim dhurriyatahum wama alatnahum min amalihim min shay. C'est éparpillé, il y a un peu beaucoup de feuilles là pour l'instant. Il vaut mieux qu'il n'y a pas de support, on va plus vite. Dans le Jannah, un père, un papa va rechercher son fils. Un père va rechercher son fils. J'aurais juste aimé le début du verset qui ne me revient pas. Il va rechercher son fils et Allah va donner la possibilité à son fils de rejoindre le degré de son père, même si le quota de bonne action ne lui permet pas normalement d'atteindre ce degré du Jannah. C'est-à-dire un père qui avait atteint ce moment de piété, son fils qui était dans le droit chemin, qui accédait au Jannah, mais pas le même degré. Par le doua, par la demande du papa, وَمَا أَلَتْنَاهُ مِنْ عَمَلِهِ مِنْ شَيْءٍ. C'est la fin du verset, c'était le début que je cherchais. Par la demande du père, du papa, le fils va rejoindre son père. C'est-à-dire les familles seront réunies. On a ce verset magnifique qu'on aime citer quand il y a des mariages. جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ. Paradis de lequel ils vont entrer à condition d'avoir les qualités au man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyatihim, parmi les ascendants, les descendants, mais également la famille, les épouses, époux et épouses seront ensemble de Jannah avec les parents, avec les enfants. Les ulama disent ça c'est le summum du bonheur quand toute la famille est réunie dans le Jannah. Et maintenant, ça c'est la demande d'un père pour son fils. Maintenant, qu'est-ce qu'un fils peut apporter à son papa de le Jannah? Un homme verra de le Jannah un degré qu'il n'a pas mérité. Il va dire, Ya Allah, je n'ai pas mérité ce grade. Allah dira que tu as atteint ce degré par les doigts que ton fils faisait en permanence pour toi. Ainsi donc, Que nos parents soient de ce monde ou qu'ils ne soient plus de ce monde, faisons dua pour Rabbi Rahamhuma, Rabbi Rahamhuma, Rabbi Rahamhuma, Kama Rabbayani Sahira. Les personnes qu'Allah a repris de ce dunya, dans ce monde, dans ce mois béni de Ramadan, qu'Allah Rabbi Izza, Bikaramihi, wa fadlihi wa ihsani, Allah leur accorde un haut degré de le firdaus al-a'la et que leur tombe soit un jardin du paradis et qu'à l'instant où on parle, ils ont déjà la vision, cette lucarne du Jannah qui est ouverte pour eux et qu'ils voient déjà leur manzil, leur place de le Jannah et sabrun jamil et la belle patience qui permet d'avancer pour ceux qui sont toujours de ce dunya et avec cet espoir qu'Allah nous réunit de le Jannah. Ce n'est qu'une étape, ce monde n'est qu'une étape. L'objectif c'est d'être avec mon père, ma mère, mes grands-parents, ma femme, mes enfants, tout le monde en bonne santé, de le bonheur parfait, l'âge idéal dans le Jannah, c'est le Jannah, c'est le paradis. On termine, on conclut, promesse. On conclut avec maintenant les échanges entre les gens du Jannah. Les gens du paradis, le vendredi, auront la possibilité de se rendre visite mutuellement. Et leur lit, on parle de lit, mais ce n'est pas ce que nous appelons des lits, hein, c'est description du Jannah, seront mis côte à côte et ils vont discuter, ils vont parler. Ils vont parler de quoi d'après eux? Ils m'ont fasciné, j'étais étonné de le voir. De le livre de Tafsir dit c'est comme des gens qui se réunissent autour d'une table pour avoir quelque chose. Pour boire, vous comprenez, quelque chose de halal bien sûr. C'est comme tu trouves une personne, allez viens, on s'assoit, on boit nashrab chai, on boit du thé, on discute de tout et de rien. Mais de quoi vont-ils discuter les gens du Jannah? Qu'est-ce qu'il y a encore à dire alors qu'on a déjà tout eu? Vous savez quelles seront leurs conversations? Et qu'Allah nous accorde à tous l'honneur de prononcer, de dire ces choses-là. Ta'lam, je vais directement au but, hein, je ne parle pas de la façon dont ils se rendent compte. Ils vont se dire ta'lamu mata ghafarallahu lana, hadith de Ibn Abi Dunya. Est-ce que tu sais quand est-ce qu'Allah nous a accordé son maghfira? Est-ce que tu sais? Parce qu'en ce jour, l'homme a une connaissance de toute sa vie, de toutes ses actions, de tous ses péchés et des moments de kaboul, des choses qu'on ne connaît pas. On aura une connaissance parfaite quand est-ce qu'Allah m'a accepté de le Jannah? Est-ce que c'était ce Hajj en 2006 où il n'y avait pas de tente? À Arafat, j'étais dehors sous le soleil. Est-ce que c'était le moment où ma maman n'était pas bien, je l'ai amenée à l'hôpital, j'ai passé la nuit debout dans le couloir des urgences? Quand est-ce que Mata Ghafarallahu Lana? Et chaque Ahlul Jannah saura exactement à quel moment Allah lui a accordé le Jannah et ils parleront de ça parce que c'est le moment clé qui leur a permis d'être là et de ne pas être de l'autre côté avec les gens de l'enfer. Et enfin, le plus beau moment qui fera oublier les ni'mas du Jannah au Jannati, Ajib, les gens du paradis oublieront le paradis lorsqu'il y aura ce rendez-vous avec Allah Azza wa Jal. Hadith, là aussi qui est long, mais on va le résumer sans être irrespectueux. Il y aura un i'lan, ya ahl al-jannah, de le paradis. On entendra, Allahumma amin, Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna min alladhina yasma'una an-nida. Allah nous donne la possibilité d'être parmi ceux qui entendront cet appel, ya ahl al-jannah, oh gens du paradis. C'est-à-dire, ce i'lan, c'est lorsque les gens du Jannah sont déjà de le Jannah. Ils savent que quand on y est, on ne ressort plus. On est honoré par Allah. Ya ahl al-jannah, bi sawtin yasma'u, avec une voix qui couvrira tout le Jannah, l'étendue du Jannah. Quelle étendue du Jannah? C'est l'infini. Tout le monde entendra. C'est-à-dire, inna lakum maw'ida, Allah vous a donné un rendez-vous. Préparez-vous à rendre visite à votre Seigneur. Et les gens du paradis vont dire, Allah nous a déjà comblé de tellement de choses. N'a-t-il pas alouadi nos balances? Nous a-t-il pas accordé un rang qui est supérieur au nôtre? Il dit, mais Allah vous attend maintenant pour ce rendez-vous. Et les gens du Jannah vont quitter leur place de le Jannah. Ils vont se lever, ils vont se hâter pour cette visite que toute la Jannah, le paradis attend. Et ils seront sur des najaib, des montures spécifiques au Jannah. Allah seul sait comment seront ces montures. Et ils vont aller dans une vallée qui s'appelle Wadi al-Afyah. Qu'Allah nous fasse connaître ce Wadi al-Afyah. Cette vallée qui s'appelle Al-Afyah, c'est le lieu de rendez-vous où Allah demandera aux anges d'apporter son arsh et le trône d'Allah sera là. Kama yaliqu bihi azza wa jal. Comme cela appartient à Allah, laysa kamithlihi shay. Rien ne ressemble à Allah. Allah nous l'a dit, amanna wa saddaqna. Et nous le verrons. Nous le verrons une charge de qiyama. Et les gens vont arriver des différentes tabaqas. Les gens du Firdaus seront certainement les premiers arrivés. Allahumma ja'alna minhum. Les gens vont arriver. Certains vont s'asseoir sur des mimbar de nour, de lumière du Jannah. D'autres, c'est des mimbars de perles du Jannah, des mimbars de d'or, d'ab, de fidda, d'argent, et les gens qui étaient les degrés les plus bas du Jannah, mais il n'y a pas de degré bas dans le Jannah. Ils seront assis sur des dunes. Vous savez c'est quoi des dunes? Des dunes de musc. Cette vallée de Afia, elle est constituée de dunes, de musc, khalis, et ils vont s'asseoir. Et lorsque tout le monde sera installé, nad al-munadi ya ahl al-jannah, inna lakum indallahi maw'idan yurid wa yunjizakumu. Allah veut réaliser une promesse. Et c'est là qu'ils vont dire qu'Allah nous a déjà tellement comblés. Et au moment où ils parlent, il y a une lumière qui surgit du haut du Jannah, qui illuminera tout le Jannah, le paradis. Et ils lèveront leur tête. Quand ils demanderont ce sera leur souhait, Allah nous a tout accordé, nous voulons rencontrer Allah. Et c'est là qu'il y aura cette lumière, ils vont lever leur tête et ce sera Allah Azza wa Jal qui va apparaître au Ahlul Jannah comme cela appartient à Allah Rabbul Izza. Et Allah Rabbul Izza va dire, ya Ahlul Jannah, salamun alaykum, que la paix soit sur vous. Et la réponse des Ahlul Jannah est que nous allons dire inshallah, Allahumma antas salam. وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Un doigt que nous lisons et que nous lirons de le Jannah en voyant Allah, tu es la paix et de toi vient la paix, à toi la bénédiction. Et Allah Azza wa Jal demandera أَيْنَ عِبَادِي, où sont mes serviteurs, الَّذِينَ طَاعُونِي بِالْغَيْبِ وَلَمْ يَرَوْنِي, qui m'ont écouté, qui m'ont suivi, qui m'ont obéi sans me voir. يؤمنون بالغيب الذين يؤمنون بالغيب. Gardons confiance pour que le jour de Qiyama Allah nous va inclure dans ceux qui l'ont obéi sans le voir. C'est ce qu'on appelle yawmul mazid. Et les gens vont dire qad radina, oh Allah nous sommes satisfaits, fardu anna, sois satisfait de nous. Et Allah répondra à ces gens, si je n'étais pas satisfait de vous ya ahl al jannah, je ne vous aurais pas fait habiter dans mon jannah. Hada yawmul mazid. Et là Allah demandera aux gens du Jannah, demandez ce que vous voulez. Et c'est là que les gens vont dire, ya Rabb, nous voulons admirer ta beauté, nous voulons te voir, ya Allah, ce qui fera oublier les gens du Jannah, les bienfaits du Jannah. Et la fin du hadith précise que Allah s'adressera à une personne, ya Fulan, est-ce que tu te souviens, tel jour tu avais fait tel péché. Et là le croyant, le Jannati, il aura peur, il dit, ya Rabb, ne m'as-tu pas déjà pardonné? Et Allah va dire, bien sûr que le pardon t'a été accordé, c'est pour ça que tu as atteint ce degré. Et le hadith stipule que Allah conversera avec chaque personne du paradis. Qu'Allah Azza wa Jal, dans sa clémence, dans la baraka de ces derniers instants, de ces derniers jours du mois de Ramadan, nous donne à nous tous, premièrement, les qualités pour compléter ce mois béni, pour avoir nos actions acceptées, pour essayer de travailler notre ikhlas, notre sincérité. Qu'Allah nous accorde l'istiqama, la fermeté après le mois béni, cette basira, cette vision du croyant qui réalise la relation entre ce monde et l'au-delà, qui réalise que ce dunya n'est qu'une période limitée et que l'objectif c'est d'œuvrer et d'apporter des bonnes actions pour l'au-delà. Qu'Allah ouvre nos cœurs, nos poitrines pour le Coran, que la beauté, la lumière et que la soif du Coran pénètrent nos cœurs et que nous ne trouvons le bonheur et la quiétude qu'en étudiant les versets, et qu'à chaque fois qu'on étudie un verset, que cela augmente notre iman, nous donne plus de piété et que nous arrivons à trouver plus de concentration, de dévotion de nos prières, et que nous nous rapprochons d'Allah par le kalam Allah, par la parole d'Allah Azza wa Jal. Qu'Allah nous permet de rester dans une vie d'istiqama, de mourir et de revenir vers lui alors qu'il est satisfait de nous, et que chaque conversation des gens heureux du Jannah, on n'a pas pu développer, celui qui reçoit son livret de compte de la main droite, que je serai parmi ceux qui vont dire aux gens, regardez, l'ostentation là-haut sera permis, voyez tout ce que j'accomplis comme bonne action, que je sois cette personne qui va dire Alhamdulillah illadhi hadana lihada, Alhamdulillah illadhi sadaqana wa'ada, et qui va retrouver sa femme et ses enfants, qu'Allah nous accorde l'objectif final qui est le retour vers lui alors qu'il est satisfait de nous, qu'Allah nous accorde ce Jannah, wa tawfiq illa billah. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خير.